L'Odyssée, chant 21e. Alors, la déesse Athénée aux yeux clairs inspira à la fille d'Icarios, à la prudente Pénélopéia, d'apporter au prétendant l'arc et le fer brillant pour l'épreuve qui, dans les demeures d'Odysseus, devait être le commencement du carnage. Elle gravit la longue échelle de la maison, tenant à la main la belle clé recourbée, d'airain et à poignée d'ivoire. Et elle se hâta de monter avec ses servantes dans la chambre haute où étaient renfermés les trésors du roi, l'airain, l'or et le fer difficile à travailler. Là se trouvait l'arc recourbé, le carquois porte-flèches et les flèches terribles qui le remplissaient. Iphitos, Eurytide de l'Académon, semblable aux immortels, les avait donnés à Odysseus, l'ayant rencontré à Mécénée, dans la demeure du brave Orsilochos, où Odysseus était venu pour une réclamation de tout le peuple qu'il en avait chargé. En effet, les Messéniens avaient enlevé d'Ithaque sur leur nef 300 brebis et leurs bergers. Et pour cette réclamation, Odysseus était venu, tout jeune encore, car son père et les autres vieillards l'avaient envoyé. Et Iphitos était venu de son côté, cherchant 12 cavales qu'il avait perdues et autant de mules patientes, et qui toutes devait lui attirer la mort, car s'étant rendu auprès du magnanime fils de Zeus, Héraclès, illustre par ses grands travaux, celui-ci le tua dans ses demeures, bien qu'il fût son hôte, et il le tua indignement, sans respecter ni les dieux, ni la table où il l'avait fait asseoir, et il retint ses cavales aux sabots vigoureux. Ce fut en cherchant celle-ci qu'Iphitos rencontra Odysseus, et qu'il lui donna cet arc qu'avait porté le grand Eurytos, et qu'il laissa en mourant à son fils dans ses hautes demeures. Et Odysseus donna à celui-ci une épée aiguë et une forte lance. Ce fut le commencement d'une triste amitié, et qui ne fut pas longue, car ils ne se reçurent point à leur table, et le fils de Zeus tua auparavant l'Eurytide Iphitos, semblable aux immortels. Et le divin Odysseus se servait de cet arc à Ithaque, mais il ne l'emporta point sur ses nefs noires en partant pour la guerre, et il le laissa dans ses demeures, en mémoire de son cher hôte. Et quand la noble femme fut arrivée à la chambre haute, elle monta sur le seuil de chêne qu'autrefois un ouvrier habile avait poli et ajusté au cordeau, et auquel il avait adapté des battants et de brillantes portes. Elle détacha aussitôt la courroie de l'anneau, fit entrer la clé et ouvrit les verrous. Et semblables à un taureau qui mugit en paissant dans un pré, les belles portes résonnèrent, frappées par la clé, et s'ouvrirent aussitôt. Et Pénélopéia monta sur le haut plancher où étaient les coffres qui renfermaient les vêtements parfumés, et elle détacha du clou l'arc et le carquois brillant, et s'asseyant là, elle les posa sur ses genoux et elle pleura amèrement. Et après s'être rassasiée de larmes et de deuil, elle se hâta d'aller à la grande salle, vers les prétendants insolents, tenant à la main l'arc recourbé et le carquois porte-flèches et les flèches terribles qui le remplissaient. Et les servantes portaient le coffre où étaient le fer et l'airain des jeux du roi. Et la noble femme, étant arrivée auprès des prétendants, s'arrêta sur le seuil de la belle salle, un voile léger sur ses joues, les deux servantes à ses côtés. Et aussitôt, elle parla aux prétendants et elle leur dit « Écoutez-moi, illustre prétendant, qui pour manger et boire sans cesse avait envahi la maison d'un homme absent depuis longtemps et qui dévorait ses richesses sans autre prétexte que celui de m'épouser. Voici, ô prétendant, l'épreuve qui vous est proposée. Je vous apporte le grand arc du divin Odysseus. Celui qui de ses mains tendra le plus facilement cet arc et lancera une flèche à travers les 12 haches, je le suivrai, et il me conduira loin de cette demeure qui a vu ma jeunesse, qui est belle et pleine d'abondance, et dont je me souviendrai, je pense, même dans mes songes. » Elle parla ainsi, et elle ordonna au porcher Eumaios de porter au prétendant l'arc et le fer brillant. Et Eumaios les prit en pleurant et les porta. Et le bouvier pleura aussi en voyant l'arc du roi. Et Antinoos les réprimanda et leur dit « Rustres stupides, qui ne pensaient qu'au jour le jour, Pourquoi pleurez-vous, misérable? Et remuez-vous ainsi dans sa poitrine l'âme de cette femme, qui est en proie à la douleur depuis qu'elle a perdu son cher mari? Mangez en silence, ou allez pleurer dehors et laissez ici cet arc. Ce sera pour les prétendants une épreuve difficile, car je ne pense pas qu'on tende aisément cet arc poli. Il n'y a point ici un seul homme tel qu'Odysseus. Je l'ai vu moi-même, et je m'en souviens, mais j'étais alors un enfant. » Il parla ainsi, et il espérait dans son âme tendre l'arc et lancer une flèche à travers le fer. Mais il devait, certes, goûter le premier une flèche partie des mains de l'irréprochable Odysseus, qu'il avait déjà outragé dans sa demeure, et contre qui il avait excité tous ses compagnons. Alors, la force sacrée de Télémachos parla ainsi. « Ô Dieu, certes le crognon Zeus m'a rendu insensé. Voici que ma chère mère, bien que très prudente, dit qu'elle va suivre un autre homme et quitter cette demeure. Et voici que je ris et que je me réjouis dans mon esprit insensé. Tentez donc, ô prétendant, l'épreuve proposée. Il n'est point de telle femme dans la terre achéenne, ni dans la sainte Pylos, ni dans Argos, ni dans Mycène, ni dans Ithaque, ni dans la noire Épéros. Mais vous le savez, qu'est-il besoin de louer ma mère? Allons, ne retardez pas l'épreuve. Hâtez-vous de tendre cet arc, afin que nous voyions qui vous êtes. Moi-même, je ferai l'épreuve de cet arc. Et si je le tends, si je lance une flèche à travers le fer, ma mère vénérable, à moi qui gémis, ne quittera point ses demeures avec un autre homme, et ne m'abandonnera point, moi qui aurai accompli les nobles jeux de mon père. » Il parla ainsi, et se levant, il retira son manteau pourpré et son épée aiguë de ses épaules. Puis ayant creusé un long fossé, il dressa en ligne les anneaux des haches, et il pressa la terre tout autour. Et tous furent stupéfaits de son adresse, car ils ne l'avaient jamais vu faire. Puis, se tenant debout sur le seuil, il essaya l'arc. Trois fois il faillit le tendre, espérant tirer le nerf et lancer une flèche à travers le fer. Et trois fois, la force lui manqua. Et comme il le tentait une quatrième fois, Odysseus lui fit signe et le retint malgré son désir. Alors, la force sacrée de Télémachos parla ainsi. « Ô Dieu, où je ne serai jamais qu'un homme sans force, où je suis trop jeune encore, et je n'ai point la vigueur qu'il faudrait pour repousser un guerrier qui m'attaquerait. Allons, vous qui m'êtes supérieur par la force, essayez cet arc et terminons cette épreuve. » Ayant ainsi parlé, il déposa l'arc sur la terre, debout, et appuyé contre les battants polis de la porte, et il mit la flèche aiguë auprès de l'arc au bout recourbé. Puis il retourna s'asseoir sur le trône qu'il avait quitté. Et Antinoos, fils de Peïtès, dit aux prétendants, « Compagnons, levez-vous tous et avancez l'un après l'autre dans l'ordre qu'on suit en versant le vin. » Ainsi parla Antinoos, et ce qu'il avait dit leur plut. Et Léiodès, fils d'Oinops, se leva le premier. Et il était leur sacrificateur, et il s'asseyait toujours le plus près du beau cratère. Il n'aimait point les actions iniques, et il s'irritait sans cesse contre les prétendants. Et il saisit le premier l'arc et le très rapide. Et debout sur le seuil, il essaya l'arc. Mais il ne put le tendre, et il se fatigua vainement les bras. Alors, il dit aux prétendants, « Ô ami, je ne tendrai point cet arc, qu'un autre le prenne. Cet arc doit priver de leur cœur et de leur âme beaucoup de braves guerriers, car il vaut mieux mourir que de nous retirer vivants, n'ayant point accompli ce que nous espérions ici. Qu'aucun n'espère donc plus, dans son âme, épouser Pénélopéia, la femme d'Odysseus. Après avoir éprouvé cet arc, chacun de vous verra qu'il lui faut rechercher quelque autre femme, parmi les Achéennes au beau Péplos, et à laquelle il fera des présents. Pénélopéia épousera ensuite celui qui lui fera le plus de présents, et à qui elle est destinée. » Il parla ainsi, et il déposa l'arc appuyé contre les battants polis de la porte, et il mit la flèche aiguë auprès de l'arc au bout recourbé. Puis il retourna s'asseoir sur le trône qu'il avait quitté. Alors Antinoos le réprimanda et lui dit « Léiodès, quelle parole s'est échappée d'entre tes dents ? Elle est mauvaise et funeste, et je suis irrité de l'avoir entendue. Cet arc doit priver de leur cœur et de leur âme beaucoup de braves guerriers, parce que tu n'as pu le tendre. Ta mère vénérable ne t'a point enfanté pour tendre les arcs, mais bientôt, d'autres prétendants illustres tendront celui-ci. » Il parla ainsi, et il donna cet ordre au chevrier Mélanthios. Mélanthios allume promptement du feu dans la demeure, et place devant le feu un grand siège couvert de peau. Apporte le large disque de graisse qui est dans la maison, afin que les jeunes hommes, l'ayant fait chauffer, en amollissent cet arc, et que nous terminions cette épreuve. Il parla ainsi, et aussitôt Mélanthios alluma un grand feu, et il plaça devant le feu un siège couvert de peau. Et les jeunes hommes, ayant chauffé le large disque de graisse qui était dans la maison, en amollirent l'arc, et ils ne purent le tendre, car ils étaient de beaucoup trop faibles. Et il ne restait plus qu'Antinoos et le divin Eurymachos, chef des prétendants et les plus braves d'entre eux. Alors, le porcher et le bouvier du divin Odysseus sortirent ensemble de la demeure, et le divin Odysseus sortit après eux. Et quand ils furent hors des portes, dans la cour, Odysseus, précipitant ses paroles, leur dit « Bouvier, et toi, porcher, vous dirai-je quelque chose et ne vous cacherai-je rien ? Mon âme, en effet, m'ordonne de parler. Viendriez-vous en aide à Odysseus s'il revenait brusquement et si un dieu le ramenait ? À qui viendriez-vous en aide ? Au prétendant ou à Odysseus ? Dites ce que votre cœur et votre âme vous ordonnent de dire. » Et le bouvier lui répondit « Père Zeus, plutôt Dieu que mon vœu fut accompli, plutôt Dieu que ce héros revint et qu'un dieu le ramena, tu saurais alors à qui appartiendraient ma force et mes bras. » Et de même, Eumaios supplia tous les dieux de ramener le prudent Odysseus dans sa demeure. Alors celui-ci connut quelle était leur vraie pensée, et leur parlant de nouveau, il leur dit « Je suis Odysseus. Après avoir souffert des maux innombrables, je reviens dans la 20e année sur la terre de la patrie. Je sais que seul parmi les serviteurs, vous avez désiré mon retour, car je n'ai entendu aucun des autres prier pour que je revinsse dans ma demeure. Je vous dirai donc ce qui sera. Si un dieu dompte par mes mains les prétendants insolents, je vous donnerai à tous deux des femmes, des richesses et de demeures bâties près des miennes, et vous serez pour Télémachos des compagnons et des frères. Mais je vous montrerai un signe manifeste, afin que vous me reconnaissiez bien et que vous soyez persuadés dans votre âme. Cette blessure qu'un sanglier me fit autrefois de ses blanches dents quand j'allais sur le Parnésos avec les fils d'Autolycos. » Il parla ainsi, et entr'ouvrant ses haillons, il montra la grande blessure. Et dès qu'ils l'eurent vue, aussitôt ils la reconnurent. Et ils pleurèrent, entourant le prudent Odysseus de leurs bras, et ils baisèrent sa tête et ses épaules. Et de même, Odysseus baisa leur tête et leurs épaules. Et la lumière de Hélios fut tombée tandis qu'ils pleuraient, si Odysseus ne les eût arrêtés et ne leur eût dit « Cessez de pleurer et de gémir, de peur que sortant de la demeure, quelqu'un vous voie et le dise. Mais rentrez l'un après l'autre, et non ensemble. Je rentre le premier, venez ensuite. Maintenant, écoutez ceci. Les prétendants insolents ne permettront point, tous tant qu'ils sont, qu'on me donne l'arc et le carquois. Mais toi, divin Eumaios, apporte-moi l'arc à travers la salle, remets-le dans mes mains, et dis aux servantes de fermer les portes solides de la demeure. Si quelqu'un entend de la cour des gémissements et du tumulte, qu'il y reste, et s'occupe tranquillement de son travail. Et toi, divin Philoïtios, je t'ordonne de fermer les portes de la cour, et d'en assujettir les barrières, et d'en pousser les verrous. » Ayant ainsi parlé, il rentra dans la grande salle, et il s'assit sur le siège qu'il avait quitté. Puis les deux serviteurs du divin Odysseus rentrèrent. Et déjà Eurymachos tenait l'arc dans ses mains, le chauffant de tous les côtés à la splendeur du feu. Mais il ne put le tendre, et son illustre cœur soupira profondément. et il dit parlant ainsi : « Ô Dieu, certes je ressens une grande douleur pour moi et pour tous. Je ne gémis pas seulement à cause de mes noces, bien que j'en sois attristé, car il y a beaucoup d'autres Achéennes dans Ithaque entourées des flots et dans les autres villes. Mais je gémis que nous soyons tellement inférieurs en force au divin Odysseus, que nous ne puissions tendre son arc. Ce sera notre honte dans l'avenir. » Et Antinoos, fils de Peïtès, lui répondit : « Eurymachos, ceci ne sera point. Songe-y toi-même. C'est aujourd'hui parmi le peuple la fête sacrée d'un dieu. Qui pourrait tendre un arc ? Laissons-le en repos, et que les anneaux des haches restent dressés. Je ne pense pas que quelqu'un les enlève dans la demeure du Laertiade Odysseus. Allons, que celui qui verse le vin emplisse les coupes, afin que nous fassions des libations après avoir déposé cet arc. Ordonnez au chevrier Mélantios d'amener demain les meilleures chèvres de tous ses troupeaux, afin qu'ayant brûlé leurs cuisses pour Apollon illustre par son arc, nous tentions de nouveau et nous terminions l'épreuve. » Ainsi parla Antinoos, et ce qu'il avait dit leur plut, et les héros leur versèrent de l'eau sur les mains, et les jeunes hommes couronnèrent de vin les cratères, et le distribuèrent entre tous à coupe pleine. Et après qu'ils eurent fait des libations, et bu autant que leur âme le désirait, le prudent Odysseus, méditant des ruses, leur dit : « Écoutez-moi, prétendant de l'illustre reine, afin que je dise ce que mon cœur m'ordonne dans ma poitrine. Je prie surtout Eurymachos et le roi Antinoos, car ce dernier a parlé comme il convenait. Laissez maintenant cet arc et remettez le reste aux dieux. Demain, un dieu donnera la victoire à qui il voudra, mais donnez-moi cet arc poli, afin que je fasse devant vous l'épreuve de mes mains et de ma force, et que je voie si j'ai encore la force d'autrefois dans mes membres courbés, ou si mes courses errantes et la misère me l'ont enlevé. » Il parla ainsi, et tous furent très irrités, craignant qu'il tendît l'arc poli. Et Antinoos le réprimanda ainsi et lui dit : « Ah, misérable étranger, ne te reste-t-il plus le moindre sens ? Ne te plaît-il plus de prendre tranquillement ton repas à nos tables ? Es-tu privé de nourriture ? N'entends-tu pas nos paroles ? Jamais aucun autre étranger ou mendiant ne nous a écoutés ainsi. Le doux vin te trouble, comme il trouble celui qui en boit avec abondance, et non convenablement. Certes, ce fut le vin qui troubla l'illustre centaure Eurytion, chez les Lapithes, dans la demeure du magnanime Péritos. Il troubla son esprit avec le vin, et devenu furieux, il commit des actions mauvaises dans la demeure de Péritos. Et la douleur saisit alors les héros, et ils le traînèrent hors du portique, et ils lui coupèrent les oreilles avec les reins cruels et les narines. Et l'esprit égaré, il s'en alla, emportant son supplice et son cœur furieux. Et c'est de là que s'éleva la guerre entre les centaures et les hommes. Mais ce fut d'abord Eurytion qui, étant ivre, trouva son malheur. Je te prédis un châtiment aussi grand si tu tends cet arc. Tu ne supplieras plus personne dans cette demeure, car nous t'enverrons aussitôt sur une nef noire, au roi Echetos, le plus féroce de tous les hommes. Et là, tu ne te sauveras pas. Bois donc en repos, et ne lutte point contre des hommes plus jeunes que toi. » Et la prudente Pénélopéia parla ainsi : « Antinoos, il n'est ni bon ni juste d'outrager les hôtes de Télémachos, quel que soit celui qui entre dans ces demeures. Crois-tu que si cet étranger, confiant dans ses forces, tendait le grand arc d'Odysseus, il me conduirait dans sa demeure et ferait de moi sa femme? Lui-même ne l'espère point dans son esprit. Qu'aucun de vous, prenant ici son repas, ne s'inquiète de ceci, car cette pensée n'est point convenable. » Et Eurymachos, fils de Polybos, lui répondit : « Fille d'Icarios, prudente Pénélopéia, nous ne croyons point que cet homme t'épouse, car cette pensée ne serait point convenable. Mais nous craignons la rumeur des hommes et des femmes. Le dernier des Achéens dirait : « Certes, ce sont les pires des hommes qui recherchent la femme d'un homme irréprochable, car ils n'ont pu tendre son arc poli, tandis qu'un mendiant vagabond a tendu aisément l'arc et lancé une flèche à travers le fer. En parlant ainsi, il nous couvrirait d'opprobre. Et la prudente Pénélopéia lui répondit : Eurymachos, ils ne peuvent s'illustrer parmi le peuple, ceux qui méprisent et ruinent la maison d'un homme brave. Pourquoi vous êtes-vous couvert d'opprobre vous-même ? Cet étranger est grand et fort, et il se glorifie d'être d'une bonne race. Donnez-lui donc l'arc d'Odysseus, afin que nous voyions ce qu'il en fera. Et je le dis, et ma parole s'accomplira. S'il tend l'arc, et si Apollon lui accorde cette gloire, je le couvrirai de beaux vêtements, d'un manteau et d'une tunique, et je lui donnerai une lance aiguë, pour qu'il se défende des chiens et des hommes, et une épée à deux tranchants, et je lui donnerai aussi des sandales, et je le renverrai là où son cœur et son âme lui ordonnent d'aller. Et alors, le prudent Télémachos lui répondit : Ma mère, aucun des Achéens ne peut m'empêcher de donner ou de refuser cet arc à qui je voudrais, ni aucun de ceux qui dominent dans la Pritaque ou qui habitent Élis ou paissent les chevaux. Aucun d'entre eux ne m'arrêtera si je veux donner cet arc à mon hôte. Mais rentre dans ta chambre haute et prends souci de tes travaux, de la toile et du fuseau. Ordonne aux servantes de reprendre leurs tâches. Tout le reste regarde les hommes, et surtout moi, qui commande dans cette demeure. » Et Pénélopéia, surprise, rentra dans la maison, songeant en son âme aux paroles prudentes de son fils. Puis, étant montée dans la chambre haute, avec ses servantes, elle pleura son cher mari Odysseus, jusqu'à ce qu'Athénée, aux yeux clairs, eût répandu le doux sommeil sur ses paupières. Alors le divin Porché prit l'arc recourbé et l'emporta, et les prétendants firent un grand tumulte dans la salle. Et l'un de ces jeunes hommes insolents dit : Où portes-tu cet arc, immonde Porché ? Vagabond ! Bientôt les chiens rapides que tu nourris te mangeront, au milieu de tes porcs, loin des hommes, si Apollon et les autres dieux immortels nous sont propices. Ils parlèrent ainsi, et Eumaios déposa l'arc là où il était, plein de crainte, parce qu'il le menaçait en foule dans la demeure. Mais d'un autre côté, Télémachos cria en le menaçant : Père, porte promptement l'arc plus loin, et n'obéis pas à tout le monde, de peur que, bien que plus jeune que toi, je te chasse à coups de pierre vers tes champs, car je suis le plus fort. Plutôt Dieu, que je fusse aussi supérieur par la force de mes bras aux prétendants qui sont ici, car je les chasserai aussitôt honteusement de ma demeure, où ils commettent des actions mauvaises. » Il parla ainsi, et tous les prétendants se mirent à rire de lui, et cessèrent d'être irrités. Et le Porché, traversant la salle, emporta l'arc, et le remit aux mains du subtil Odysseus. Et aussitôt, il appela la nourrice Eurycléia. Télémachos t'ordonne, ô prudente Eurycléia, de fermer les portes solides de la maison. Si quelqu'un des nôtres entend de la cour des gémissements ou du tumulte, qu'il y reste et s'occupe tranquillement de son travail. » Il parla ainsi, et sa parole ne fut point vaine, et Eurycléia ferma les portes de la belle demeure. Et Philoïtios, sautant dehors, ferma aussi les portes de la cour. Et il y avait sous le portique un câble d'écorce de nef à bancs de rameur, et il en lia les portes. Puis, rentrant dans la salle, il s'assit sur le siège qu'il avait quitté, et il regarda Odysseus. Mais celui-ci, tournant l'arc de tous côtés, examinait ça et là si les vers n'avaient point rongé la corne en l'absence du maître. Et les prétendants se disaient les uns aux autres en le regardant : Certes, celui-ci est un admirateur ou un voleur d'arc. Peut-être en a-t-il de semblable dans sa demeure, ou veut-il en faire ? Comme ce vagabond plein de mauvais desseins le retourne entre ses mains. » Et l'un de ces jeunes hommes insolents dit aussi : Plutôt Dieu que cet arc lui porta malheur, aussi sûrement qu'il ne pourra le tendre. » Ainsi parlaient les prétendants. Mais le subtil Odysseus, ayant examiné le grand arc, le tendit aussi aisément qu'un homme, habile à jouer de la guitare et à chanter, tant à l'aide d'une cheville, une nouvelle corde faite de l'intestin tordu d'une brebis. Ce fut ainsi qu'Odysseus, tenant le grand arc, tendit aisément de la main droite le nerf, qui résonna comme le cri de l'hirondelle. et une amère douleur saisit les prétendants, et ils changèrent tous de couleur. Et Zeus, manifestant un signe, tonna fortement, et le patient et divin Odysseus se réjouit de ce que le fils du subtil Cronos lui eut envoyé ce signe. Et il saisit une flèche rapide, qui, retirée du carquois, était posée sur la table, tandis que toutes les autres étaient restées dans le carquois creux, jusqu'à ce que les Achéens les eussent essayées. Puis saisissant la poignée de l'arc, il tira le nerf sans quitter son siège, et visant le but, il lança la flèche, lourde d'airain, qui ne s'écarta point, et traversa tous les anneaux des haches. Alors, il dit à Télémachos, « Télémachos, l'étranger assis dans tes demeures ne te fait pas honte. Je ne me suis point écarté du but, et je ne me suis point longtemps fatigué à tendre cet arc. Ma vigueur est encore entière, et les prétendants ne me mépriseront plus. Mais voici l'heure pour les Achéens de préparer le repas, pendant qu'il fait encore jour. Puis ils se charmeront des sons de la guitare et du chant, qui sont les ornements des repas. » Il parla ainsi, et fit un signe avec ses sourcils. Et Télémachos, le cher fils du divin Odysseus, ceignit une épée aiguë, saisit une lance, et armé de l'airain splendide, se plaça auprès du siège d'Odysseus.